Mais bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau partage. Aujourd'hui, on est chez JP, on est le 21, c'est le printemps. Nicole a dit c'est le printemps aujourd'hui. Elle est toute contente parce que c'est le printemps. Et puis le soleil va arriver, puis il va faire beau, puis on va pouvoir aller dehors, qu'elle dit. Prendre des marches, hein? Et puis on va saluer les gens sur Internet, les gens qui nous écoutent, que je vais sûrement oublier, nous dit quelqu'un encore. Pasteur Laurier, sa femme, Raymonde. Céline, Claudia, Bulle, Claire, Sylvie, Réginald, Lucie, Réginald et sa femme Denise, toutes les gens de Radio Prédication qui nous écoutent. Ben, on veut vous dire, la famille Chabot vous salue, et puis on vous remercie pour ceux qui nous accompagnent dans cette quête pour connaître notre Dieu. Dans le fond, c'est ça qu'on fait quand on se réunit. Hein? On veut connaître plus notre Seigneur. À la limite, à la mesure où il va nous le révéler. Hein? Parce que s'il ne nous révèle pas, comment la créature peut comprendre le Créateur? Avez-vous déjà pensé à ça? Des fois, on se pense bien bon. Hein? On a tendance à se trouver bon, mais quand on pense à Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? C'est sa création qui nous a créé comme ça. Puis qui parle à tout le monde en même temps. Il est partout en même temps. Il connaît tout. Il sait tout ce qui va arriver. Ça, on peut pas comprendre ça. Hein? On peut pas comprendre ça. C'est trop grand pour nous autres. Quand on s'arrête à ça, vraiment, là, on peut pas comprendre comment que il peut faire tout ça, tu sais. Comment il peut connaître l'avenir en ayant des personnes, même si des personnes comme on est, nous, on est avec nos libres arbitres. Il sait quand même quelle décision on va prendre. Spécial, hein? Il connaît ce qui va arriver tout à l'heure, demain, après-demain. Il connaît déjà tout ça. Fait que ça vous dit comment est-ce qu'on n'a pas idée comment qu'on a un grand Dieu. Comment est-ce qu'on va passer l'éternité à apprendre à le connaître. Et puis, à découvrir comment il est grand. Comment c'est grand ce qu'il a fait. Comment est-ce que c'est grand ses pouvoirs. Ses capacités, Si on parle juste de la création des étoiles, on regarde dans le ciel le soir, juste à regarder dans le ciel. Le soir, quand il n'y a pas de nuages, on regarde dans le ciel, puis on a une idée. Ça nous donne une idée comment Dieu est grand. Hein? Il y a quelqu'un qui les a mis là, ces étoiles-là, une étoile. C'est Dieu. Hein? Et puis, si vous voulez, on va prier. On va commencer par prier. On a-tu salué tout le monde? Carmen, Rémi, Lynn. Manque-tu quelqu'un? Hélène? Bon, salut tout le monde, puis on s'excuse pour ceux qu'on a oubliés. On espère qu'on ne nous en tiendrait pas rigueur. Et puis, si vous voulez, on va prier. On va recommencer par prier, puis on va mettre ça au sein. Ben, Père, on veut dire merci qu'on puisse être ici ce matin. Merci, Seigneur, qu'on peut continuer à étudier ta parole pour mieux te connaître, Seigneur. Et puis, Seigneur, ce matin, on veut te réclamer cette promesse comme on le fait à tous les matins, parce qu'on veut pas être familier avec ta parole. Parce que tu as dit, là où deux ou trois seront assemblés en mon nom, je serai parmi eux. Puis Seigneur, ce matin, on aspire à être enseigné par ton Saint-Esprit dans nos cœurs, Seigneur. Et puis on te demande de venir nous donner tes révélations, ton enseignement, qui nous bénit tellement, Seigneur. Pour nous donner une compréhension de faire en sorte que nos pensées puissent saisir l'éternité, puissent saisir que nos yeux puissent se positionner dans l'éternité et puis s'ajuster avec tes pensées, Seigneur, aujourd'hui. Et puis, on te demande de te puissamment visiter par ton Saint-Esprit, Seigneur, pour la gloire du nom de ton Fils Jésus, qu'on prie. Amen. Et puis, on avait vu au dernier partage, une petite révision, que l'amour n'était pas stupide. Vous vous souvenez? Hein? Paul nous exhortait dans Philippiens 1:9, puis il priait. Il dit, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en intelligence. Donc, l'amour, c'est l'amour de Dieu, et puis notre amour, ça doit pas être utilisé pour n'importe quoi, pour couvrir n'importe quoi. Ça doit être utilisé avec la connaissance et l'intelligence que Dieu nous donne, pas notre intelligence humaine, parce qu'on sait que nous autres, on peut pas saisir ça. Mais avec la puissance du Saint-Esprit, demander au Seigneur. On avait vu qu'il y avait des exemples d'arnaque, et il y en a beaucoup dans les églises aujourd'hui. Des gens qui abusent des autres gens. Des gens qui sont continuellement en train de toujours de quémander, puis de demander de l'argent, puis de c'est de l'abus, c'est carrément de l'abus. Puis ils savent que les chrétiens, c'est un chrétien qui va être un nouveau chrétien ou comme un nouveau pasteur. On a vu dans l'exemple qu'on avait vu, c'est un nouveau pasteur. Ben souvent ils vont se faire avoir, tu sais, puis ils vont partir avec l'argent. On en connaît tous. On a tous du monde qu'on a déjà vu. On ne veut pas les juger. Seulement que le Seigneur nous dit, répandez pas votre amour à des gens ou à des situations dans lesquelles mon amour s'est pas fait couvrir n'importe quoi. Donc, c'est important de demander le discernement du Saint-Esprit dans ces cas-là. Puis de demander c'est quoi le cœur de Dieu. Parce que nous, on va se faire avoir. On va se faire avoir avec ça. Et puis, aujourd'hui, on continue dans l'amour. Et puis, on va voir un passage aujourd'hui de l'Épître aux Éphésiens. La lettre aux Éphésiens, c'est-à-dire. Et puis, de Paul. Et puis, c'est Éphésiens 3, versets 17 à 19. On va lire ensemble. Et puis, on va développer là-dessus aujourd'hui. Donc, Éphésiens 3, versets 17 à 19. « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » C'était une prière que Paul adressait pour les Éphésiens. Il priait juste avant, il disait, dans le verset 16, il disait que vous soyez fortifiés dans votre âme intérieure. Donc, c'est pas... Paul, il nous dit que ça se passe au plus au niveau spirituel. Hein? Où ce qu'on a des problèmes, c'est quand on est naturel. Quand on est au naturel, quand on s'attarde aux choses qu'on voit avec les yeux, quand on raisonne d'une façon naturellement. Mais Paul, il dit, moi, je prie pour que vous soyez fortifiés spirituellement dans votre âme intérieure pour que vous puissiez connaître l'amour de Christ. Et puis, on va développer un peu sur ce verset-là. Il faut demander au Seigneur de nous aider à comprendre ça, parce que même Paul ne le comprend pas. Même Paul n'est pas capable de l'expliquer. On va le voir tantôt, là, je vois trop vite, mais vous allez voir que dans le verset, il dit... La largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, de quoi? Il est pas capable de le définir. Mais c'est une façon pour nous dire, il dit, enfin que tu saisisses toute la grandeur que ça a, ça. Mais il dit, même moi, je suis pas capable de te décrire la grandeur. On se comprend? Donc, on commence, on va y aller étape par étape dans les versets, puis on va développer là-dessus. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Ça, c'est l'élément principal de la doctrine, pas de la doctrine, mais comment on appelle ça? La théologie de Paul. Toute la théologie de Paul est basée là-dessus. Christ habite dans vos cœurs par la foi. Si vous avez cette première étape-là, il dit ça, c'est une étape numéro un. Une personne peut être en Christ, on a vu ça. On appelle ça être en Christ, puis Christ habite en nous. Dans Colossiens 3:3, ça dit qu'on a été caché en Christ quand il est venu prendre le faire le paiement. Mais Christ habite aussi en nous par son Saint-Esprit. Fait que c'est une union avec dans une relation. On va toujours parler de la relation. Ça revient toujours à ça. Le Seigneur parle toujours de ça. Cette relation personnelle-là. Et puis là, l'Esprit vient en nous avec les puissances du Seigneur et toutes ces miracles-là ensuite dans nos vies. La nouvelle naissance, le mystère caché de tous les temps, l'homme qui devient l'habitation de Dieu. Christ qui vient habiter en nous. La personne en Christ regarde à Jésus. Hein, c'est ce qu'on disait. Elle ne regarde plus aux choses naturelles. Elle regarde à Jésus, aux choses spirituelles. On voit ça dans Hébreux 12:2 pour ceux qui veulent aller développer là-dessus. Et puis, ça veut dire que maintenant, le pécheur,
où le juste, le pécheur justifié, il regarde plus à ses péchés. Il regarde plus à lui-même. Il regarde à ce que Christ a fait. Donc, c'est important que les yeux soient toujours fixés sur Jésus-Christ dans l'éternité, pas ici. C'est quand on va avoir les yeux fixés ici qu'on va avoir des problèmes. Mais quand on va garder nos yeux fixés sur Christ, sur ce que lui a fait, mais ça va nous amener une autre dimension dans nos façons de voir les choses, puis dans les façons de réagir dans les situations. Donc, nos regards s'arrêtent plus ici, dans ce monde-ci, mais ils sont dans le ciel. Hein? C'est là qu'on regarde. Donc, on s'arrête plus à l'attirance du péché, mais on s'arrête à ce que Christ a fait pour ça. Pour nous libérer de ça. C'est là-dessus qu'il faut focusser, pas sur le péché. Si je focus sur le péché, ben, je vais lui donner du pouvoir, mais si je focus sur ce que Christ a fait pour me libérer du péché, ben là, je vais être libéré. On se comprend? Donc, on oublie les choses qui sont en arrière, on porte attention aux choses qui sont en avant. Ça, ben, c'est Philippiens 3:13 qu'on voit ça. L'union avec Christ et le Saint-Esprit, quand on parle de ça, c'est la même chose, hein. Parce que le Saint-Esprit, il parle de la part de Christ qui habite en nous. Bon, quand on parle de ça, c'est fini la même chose. Puis ça, c'est attribué par la foi. Là, c'est à la mesure qu'on va croire que c'est vrai, qu'on va se l'attribuer à mesure que l'Esprit va se manifester puis va travailler. Quelle place je donne au Saint-Esprit dans ma vie? Dans les décisions, dans les situations. Comment je l'ai reçu, ce Saint-Esprit-là? Quelle place j'y ai donné? Mais ça, si vous répondez à ça, vous allez répondre à comment le Saint-Esprit opère dans votre vie. Amen? Donc, il va nous donner une nouvelle orientation. Il va nous montrer le chemin de la maison. La maison où ce qu'il va avoir des fils. Les fils vont être heureux dans la maison du Père. Et puis, Paul, il sent la nécessité d'ajouter à l'explication l'amour de Christ. Et puis, cherchant à parler de quelque chose d'infiniment grand, il a recours à des dimensions. Hein? On a vu longueur, largeur, hauteur. Il nous parle de ça, mais il laisse quelque chose d'accroché. Il parle pas largeur, hauteur, longueur de quoi? Parce qu'il est pas capable, lui non plus, de définir. Est-ce qu'on est capable de définir Christ? On n'est pas capable, hein? Mais, quand même, on va regarder, comme s'il était à court de mots, il peut pas nous dire la longueur, la largeur, la hauteur, parce que nous autres, on est habitués de voir avec nos yeux d'homme. Fait qu'on peut pas saisir ça avec une expression comme ça. Mais quand même, on va s'amuser avec nos petits casses à hélice, essayer de voir si on peut définir largeur, hauteur, longueur, puis c'est avec des commentateurs, je regarde ça avec des commentateurs. Puis la largeur, on pourrait dire que c'est les bras de Christ autour du monde. Hein? La largeur, c'est ça. C'est que Christ lui a payé, il a racheté tout le monde. Donc, c'est assez large. Comme largeur, là, hein? Si on parle de la dimension, il dit, je suis la porte, Jean 19, et tous ceux que le Père me donne viendront à moi, je ne les mettrai pas dehors, celui qui vient à moi, Jean 6, 30. Donc ça, on pourrait donner cette définition-là pour la largeur. Maintenant, l'autre mot qu'il a utilisé, la longueur, puis là, on dit pas que c'est ça, là, on met des expressions pour dire. Dans le fond, on peut pas saisir tout ça, nous autres non plus, mais on essaie de se mettre une image, tu sais, comme je disais tantôt, avec nos petits casses à hélice. Une expression que je reprends de Pasteur Jean. Et puis qu'on salue avec sa femme, je me souviens plus, Thérèse. Et puis, longueur maintenant. La longueur. Maintenant, on a vu la largeur, on s'est imaginé Christ qui prend toute la terre avec ses bras. La longueur, on pourrait s'imaginer que l'agneau, il a été immolé avant la fondation du monde. Hein, on se souvient? Et que ça l'a ouvert l'éternité à nous. Comprenez-vous? Oui, mais ça a été planifié avant la fondation du monde. L'agneau a été planifié que l'agneau serait immolé avant la fondation du monde. Ils savaient que ça se passerait comme ça, dans leur préscience. Donc, si je prends, avant la fondation du monde, ça avait été planifié, ben, cet événement-là a ouvert l'éternité. Ça, c'est la longueur. Comprenez-vous? Ça nous a ouvert l'éternité. Là, pas de bout. Ça, c'est la longueur. On pourrait dire ça à longueur. On se comprend? La profondeur, c'est Christ qui est mort à la croix. C'est humilié. Christ qui est mort, profondeur. Là, on va faire deux images, profondeur, hauteur. Là, on est dans profondeur. C'est Christ qui est parti de sa position de Dieu, puis il est descendu à la position la plus basse pour venir à la croix pour nous autres. Ça, c'est la profondeur. Et puis, il n'a point regardé comme une proie arrachée d'égal avec Dieu. Philippiens 2:6. C'était pas celle-là. Excusez-moi, c'était Philippiens 2:8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, Philippiens 2:8. C'est-à-dire qu'il est parti du point le plus haut de son trône, puis il est descendu au point le plus bas qu'il pouvait aller. Se faire crucifier, puis il est même descendu chercher du monde après, pour les sortir, hein? On se souvient de ça? Fait qu'il est descendu au plus bas. Donc ça, c'est la profondeur. Puis le point le plus haut, la hauteur, ce serait quoi? Ben, c'est son trône. C'est son ciel, c'est son trône. Il est assis sur son trône dans le ciel. Et puis, la hauteur atteint le trône de Dieu, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'égal avec Dieu. Philippiens 2:6. Donc, il y a seulement que le Saint-Esprit qui peut nous amener dans cette expérience d'amour-là. Cet amour-là qu'on voit dans ce verset-là, on voit qu'on peut pas saisir Christ, de toute façon c'est trop grand, on ne peut pas comprendre tout ça. Là. On va comprendre un peu plus quand on va être de l'autre côté. Mais l'amour, quand on parle dans ce verset-là d'être enraciné, fondé et enraciné dans l'amour, c'est fondé et enraciné dans Christ. Et puis, c'est par la foi qu'on va s'attribuer ça. C'est par la foi qu'on va s'approprier ça. Puis qu'on va expérimenter, on va être capable d'expérimenter cet amour-là. Mais je peux pas comprendre ça avec mon entendement. Donc, pourquoi Paul disait ça? Souvenez-vous. On va faire une petite parenthèse. Nicole, là, c'est ma peau. Et puis, Antoine, passe comme ça. Mais vous souvenez, on avait vu les sept lettres aux sept églises d'Apocalypse. Qu'est-ce qu'il avait dit aux Éphésiens? Souvenez-vous? Éphèse? L'église d'Éphèse? Qu'est-ce qu'il avait dit? Ce que j'ai à te reprocher, c'est que vous avez abandonné votre premier amour. Et puis, pourquoi que Paul y parle de ça? C'est que les Éphésiens, ils étaient très techniques. Ils étudiaient beaucoup, puis ils étaient très connaissants dans la parole. Mais sauf qu'ils la connaissaient pas dans le cœur. Ils l'étudiaient d'une façon charnelle, avec leur nature humaine, sans avoir une révélation de Dieu. Donc, c'est pour ça que Paul, ici, il parle, il dit, la connaissance, là, il dit, c'est l'amour de Dieu. C'est pas d'apprendre les Écritures par cœur. C'est pour ça qu'il dit que, dans le verset, là, excusez, je vais revenir, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Comment que tu connaîtras bien des affaires si t'as pas l'amour de Christ? T'as rien. Fait que pour ça que Paul, il parlait de ça, de cet amour-là. Et Paul, il dit pas que l'amour de Christ ne peut pas être reconnu. Il contestait l'exaltation que les gens de ce moment-là prônaient sur ceux qui avaient de la connaissance, tu sais. Il adorait anormalement la connaissance de la part des Grecs. Mais il dit que l'amour de Christ, c'est au-delà de ça. C'est quand même que tu auras toutes ces capacités-là. Si t'as pas l'amour de Christ, tu pourras pas avoir la vraie connaissance. Parce que la vraie connaissance, elle vient d'amour de Christ. Donc, l'amour est plus que la connaissance, et la connaissance vraie est inaccessible sans amour. La connaissance de Dieu est fondue dans l'amour de Christ. On voit ça dans 1 Jean 4, 7 et 8. Bien-aimés, nous aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Et connaît Dieu. Donc, ça commence avec l'amour. Et puis, à mesure qu'on va développer cet amour avec notre Seigneur-là, dans notre relation personnelle, le Seigneur va nous enseigner. Il va nous former dans la connaissance, dans la vraie connaissance, les choses, les vraies choses importantes. Donc, Paul a vu la croix comme une révélation suprême d'amour, évidemment. On peut pas comprendre ça non plus, hein. Quelqu'un qui vient mourir pour ses ennemis. Les gens qui sont encore ennemis. Nous autres, charnellement, on peut pas comprendre ça. On n'a aucune capacité de comprendre ça. Le Seigneur est allé jusqu'à la crucifixion. L'agneau sans tache ni péché supporterait la honte et l'agonie sur la croix pour les pécheurs, lui qui était Dieu. Donc, c'est pour ça que Paul, il dit qu'on peut pas comprendre ça. C'est trop grand. On peut pas comprendre. C'est avec notre... tout ce qu'on peut faire, c'est développer cet amour avec notre Seigneur-là. Puis lui, il va nous enseigner. Les bras tendus de Christ sur la croix embrassent toute l'humanité. C'est un peu l'image que je vous disais, qui a tout pris l'humanité dans ses bras. Aux extrémités de la terre et à la fin des temps, l'amour et le sacrifice vont ensemble. Ainsi, Paul verra la croix comme contrat de l'amour illimité et infini de Dieu. Le mystère divin, c'était Christ, ce mystère qui devient maintenant un avec l'amour de Christ. Et puis, voilà quel était le but de Dieu. C'était vraiment la nature et le but de Dieu. C'était que son Fils vienne mourir pour nous autres, par amour pour nous autres. C'est pour ça que les Écritures qui sont pas analysées avec un premièrement dans le but de l'amour, si on pense pas que premièrement c'est une histoire d'amour là-dedans, ben on comprendra pas ce qui est écrit là-dedans. Et puis moi j'ai vu souvent des gens faire des commentaires sur la Bible qui disent rien que des meurtres puis des viols là-dedans puis des, tu sais, pour quelqu'un qui est pas renouvelé là, il peut pas comprendre ce qu'il y a là-dedans. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont, quand tu lis la Bible là, il y a des choses qui sont grandes. Mais si t'es pas renouvelé par le Saint-Esprit, tu peux pas comprendre. Ces mots-là vont te dire pas rien. Donc, la valeur, Paul, ici, avant de passer à la plénitude, après ça, on va passer à la plénitude, mais la valeur placée sur la connaissance dans l'Église locale grecque, ça a parfois eu comme conséquence l'arrogance et la distance. Les gens y ont donné plus d'importance à la connaissance qu'à l'amour. Tu sais, Dieu, c'est simple, son affaire, c'est pas compliqué. Et puis ça faisait des gens arrogants qui se pensaient mieux que les autres parce qu'ils étaient plus instruits que les autres. C'est ça qui les a menés à abandonner leur premier amour, cette connaissance, comment je dirais, superficielle là qu'il y avait. C'est ça qui a fait qu'ils ont abandonné leur premier amour, qu'ils sont tombés dans les œuvres, qu'ils sont tombés dans le programme à cause de leur connaissance. Donc, on se souvenait, on avait vu ça dans les sept lettres, la lettre à l'Église d'Éphèse. Ensuite, on arrive à la plénitude de Dieu, le dernier point, l'apogée finale que Paul nous dit, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Une grosse commande. Il y a beaucoup à faire, hein? Ou à laisser faire. Pourquoi laisser faire? C'est le Seigneur qui va faire ça, JP dit, oui. Donc, si Paul l'a pris, c'est que c'est possible d'être rempli de la plénitude, de toute la plénitude de Dieu. C'est quoi être rempli de la plénitude de Dieu? On va essayer de définir ça ensemble. Premièrement, c'est d'expérimenter la résurrection. Hein? Christ est mort, il est ressuscité dans une nouvelle vie. Puis nous autres, quand on est mort aussi, quand on a accepté Christ, à quelque part, on est à mort. Maintenant, on a reçu Christ, on est ressuscité dans notre nouvelle position. Et puis là, si on prend tous les exemples qu'il y a dans le Nouveau Testament de ce qu'on serait supposé, notre joie est supposée d'être parfaite. Hein? Et puis, on n'est pas supposé de s'inquiéter de rien. Et puis, c'est de passer finalement, d'être rempli de toute la plénitude de Dieu, c'est de passer de la mort à la vie. Et puis d'avoir une nouvelle vie avec cette expérience-là avec Dieu, qui est vivant dans notre vie. Un Dieu vivant à qui on parle. Puis on vit ces expériences-là. Donc, la promesse faite aux chrétiens dans le Nouveau Testament, c'était lumière flamboyante, ça fait joie, c'était... l'excitation radiante d'un homme qui a trouvé un trésor. Il donne ses exemples-là, pardon. On va mettre à dire son thème, Marie, hein? Ce sera pas long. Donc, c'est de vivre dans notre position. Et puis, si vivre dans notre position, c'est que notre vie sera pas circonstancielle. Notre condition sera pas reliée aux circonstances qu'on vit sur la terre. Notre position va être reliée de notre relation qu'on a. C'est pour ça que Paul chantait en prison. Parce que lui, là, sa condition dans laquelle il était, sa joie, ses choses, c'était pas conditionnel à ce qu'il vivait sur la terre. C'était conditionnel à sa relation avec son Seigneur. Fait que lui, il était en prison, dans un cachot noir avec les rats, les fers aux pieds. Il y avait des rats partout là-dedans, dans le temps. Là. C'était dégueulasse, c'était froid, c'était humide, c'était des cachots en pierre. Puis les fers aux pieds, puis il chantait. Il chantait, il louait le Seigneur. Parce qu'il savait que c'était pas ça. Il était pas appelé à vivre éternellement là-dedans. Ça, c'était un détail. Et puis les chaînes sont tombées. Et puis il est tombé libre. T'sais. Il a été libéré. Mais c'est pas être rempli de toute la plénitude de Dieu pour nous autres, c'est ça. C'est de pas se fier. C'est que les circonstances me dictent pas mon humeur. C'est ma relation avec Dieu qui me dicte mon humeur. Ma position que j'ai reçue. Et puis de savoir que je suis sauvé. Vous vous souvenez le message de l'année? Réjouissez-vous. Que vos noms sont écrits dans les cieux. Oubliez jamais ça. Ça peut vous paraître des affaires incroyables, des fois, qu'on vit, hein, dans nos tentes, dans le terrain de camping, ici, là. Hein, ça peut paraître incroyable, des fois, ça peut paraître difficile. Mais, hey, c'est pas ici, ta maison. Inquiète-toi pas. Et puis, c'est ça, vivre dans la plénitude de Dieu. C'est de s'approprier, les promesses de Dieu. Et puis de les vivre, de les expérimenter à travers cette relation-là qu'on a avec lui. Et puis de cette façon qu'on voit d'être fortifié, on voit qu'il marche devant nous. Ben, toutes les fois qu'on expérimente, on ajoute foi aux paroles de Dieu, aux promesses de Dieu, il y a un miracle qui arrive. À toutes les fois. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, t'avais juste un petit peu de foi de même. Et tu dirais à cette montagne-là, ôte-toi de mon chemin, puis assieds-toi sur les mains. Fait que c'est pour vous dire comment est-ce que on peut s'approprier ce bonheur-là, puis cette joie-là qui est céleste, puis qui dépend pas des circonstances qu'on vit sur la terre. Elle dépend de notre relation qu'on a avec notre Seigneur. C'est ça qui fait que les gens vont te rencontrer. Je comprends pas que tu réagisses comme ça, tu sais, que tu réagisses pas plus fort que ça. Ou... Non. Parce que c'est pas ça qui est mon barème, là, ça. C'est pas ce qui se passe ici qui est mon barème, moi. C'est ce qui se passe entre moi et mon Père. C'est ce qui se passe dans le ciel. C'est ce qui se passe, ce qui est écrit dans la parole de Dieu pour ma vie. C'est ça qui est mon barème. C'est là-dessus que je vais m'appliquer. C'est là-dessus que je vais ajouter foi à ça. Puis c'est que ça qui va avoir la force dans ma vie. Amen. Donc, des petites questions en finissant. Petit-quand, mes questions, moi. Quelle place donnons-nous à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit? À toi. Quelle place on leur donne dans notre vie? De quelle façon j'ai reçu ce Saint-Esprit-là? Qu'est-ce que je veux dire par là? Quelle place je lui donne au Saint-Esprit dans mes décisions de tous les jours? Dans toutes les situations que je vis, c'est quoi la place que je lui donne? Il n'y a pas qu'on a notre libre-arbitre, hein? Que Dieu va le respecter. Mais si je ne consulte pas le Saint-Esprit avant de prendre mes décisions, puis je ne demande pas d'être dirigé par le Saint-Esprit, là, je ne serai pas dirigé par le Saint-Esprit. Il va se tasser, lui. Parce que Dieu, il respecte notre libre-arbitre. Fait que c'est important. Quelle place que je donne au Saint-Esprit dans ma vie? Est-ce que je demande d'être dirigé par le Saint-Esprit dans les situations où je décide de faire à ma tête, puis je demande au Seigneur de ramasser pour passer après? C'est quoi les priorités dans ma vie? Est-ce que c'est Dieu? Si c'est Dieu, je vais vivre ça, la plénitude de Dieu. Je vais vivre la plénitude de Dieu parce que j'ai mis Dieu en premier dans ma vie. Mais si c'est pas Dieu qui est en priorité dans ma vie, je peux avoir de la difficulté à être rempli de toute la plénitude de Dieu. Est-ce que Dieu est en première place dans ma vie? On peut pas espérer la plénitude de Dieu si Dieu est pas en première place dans tout ce qu'on fait dans ma vie. Si j'ai pas de relation avec Dieu, je peux pas demander d'avoir la plénitude de Dieu. Hein? C'est clair. Hein? Donc, c'est ce qui termine le partage aujourd'hui. Encore une fois, ça développe sur la relation. Hein? Sur la relation. Approfondir tout le temps ça, cette relation-là. Parler avec notre Seigneur. Expérimenter. Lui donner les choses qu'on n'est pas capable. De nous demander de nous changer, de nous fortifier, de nous renouveler, de nous changer nos cœurs. D'enlever ce qu'il y a de mauvais dans nos cœurs, de nous donner un nouveau cœur. Pour qu'on puisse après, ensuite être rempli de cette plénitude-là, comme Paul l'était en prison, et puis de vivre ici avec la joie du Seigneur. Amen. On va prier pour ça, si vous voulez. Père, nous te prions pour te demander que par ta grâce, de créer en nous le bon vouloir et le faire, selon ton bon plaisir, afin que Jésus-Christ soit glorifié par nos vies. Amen. Et puis, si tu as entendu ce message aujourd'hui, et puis que tu aimerais avoir cette relation avec le Seigneur, premièrement, tu dois connaître qu'il y a l'humanité, dans son état actuel, est séparée de Dieu. Et puis, on voit ça dans Romains 3, 23. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien que tu peux faire dans ta vie qui va faire que les portes du ciel vont être ouvertes à ton arrivée. Il n'y a rien que tu peux faire par tes propres forces qui va faire que les portes du ciel vont s'ouvrir à cause d'une séparation qu'il y a eu dans le temps. On a vu ça dans le jardin d'Éden. Et puis l'homme a décidé de désobéir à Dieu avec son libre arbitre. Et puis là, il y a eu une séparation. Et puis, par contre, on voit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et puis dans Jean 1,12, ça dit, à celui qui l'a cru et qui l'a reçu, il a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Donc, on voit que tu n'as rien à faire, mais que tu as quelque chose à recevoir. Dieu veut te faire ce cadeau. Jésus-Christ est venu faire le paiement. Le paiement pour nous à la croix. Et puis, mais Dieu veut pas t'imposer ça. Il veut que tu choisisses de l'aimer, de choisisses de recevoir ce cadeau-là. Et puis, si tu reconnais aujourd'hui, si tu te repens d'avoir vécu ta vie par toi-même sans Dieu, et que tu demandes pardon à Dieu pour ça, et puis que tu acceptes le cadeau de Jésus-Christ, et que tu le reçois comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, la Bible dit, aujourd'hui même, tu deviendras un enfant de Dieu. Et puis Dieu regarde plus à ton cœur. Et puis si tu veux, on va prier avec toi. Et puis après ça, on va prier pour toi. Puis tu n'as qu'à prier avec nous dans ton cœur. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. J'ai entendu que Jésus-Christ est mort à la croix pour mes péchés. Je le crois et je l'accepte. Seigneur, viens dans mon cœur et sauve-moi. Seigneur Jésus, je veux te prier pour les gens qui ont fait cette prière, que tu touches leur cœur maintenant puissamment de ton amour, Seigneur. Qu'ils ne puissent jamais douter qu'ils sont sauvés, qu'ils ont la vie éternelle. Seigneur, envoie-leur des ouvriers qui deviennent tes disciples, qui deviennent la salle et la lumière pour ta gloire, Seigneur Jésus, qu'on prie. Amen. Merci beaucoup.